Le grand témoin.
Il est professeur des universités de Kinshasa, Brazzaville et Paris 1, Panthéon, Sorbonne, ministre honoraire et vice-président de l'Institut euro-africain de droit économique, Grégoire Bakande Jawampungu, et celui qui est grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Comment vous allez?
Je me porte très bien.
Votre séjour à Kinshasa, comment il se passe?
Très agréablement, je crois qu'il y a du beau temps, tout se passe bien.
Professeur, avec vous dans cette émission, nous parlerons de vous. Puisque c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui, on va vous faire découvrir auprès de tous ces auditeurs des radiocraties qui nous suivent en ce moment. C'est vrai que Grégoire Bakande a été très connu dans le pays. Vous avez assumé des fonctions ministérielles, vous êtes professeur d'université. On parlait du rapport que vous avez publié, le rapport Bakande, qui a fait couler beaucoup d'encre quand même dans le pays. On va y revenir tout à l'heure. Mais commençons par une petite biographie de vous. Quelle est la ville que vous avez naître?
Je suis né à Mouka, dans la province du Kassai occidental, le 2 février 1956.
Et c'est là que vous passez votre enfance à Mouka?
Non, j'ai passé mon enfance à Kananga parce que j'ai fait mes études primaires et secondaires au petit et grand collège Saint-Louis de Kananga à l'époque qu'on appelait Lulobo.
C'est un grand collège, hein, Saint-Louis?
Oui, c'est parmi les plus grandes écoles missionnaires de Shkref dans la province du Kassai occidental.
Et c'est quelles études que vous avez faites aux humanités?
J'ai fait les études de gréco-latine, la section littéraire, option latin philo.
Dans quelles conditions le professeur Bakande a-t-il grandi?
J'ai grandi comme tous les jeunes de l'époque, dans de bonnes conditions. Il y avait cet avantage d'avoir des parents qui n'étaient pas dans la disette. Donc, j'ai grandi comme tous les jeunes de la ville de Kananga à l'époque. Et je crois que la vie était encore très bonne. C'est dans ce contexte-là que j'ai terminé en 1975. La vie était encore très agréable. Et après mes études secondaires, je suis parti directement à l'étranger.
C'est quoi le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance?
Il y a beaucoup de souvenirs, je sais pas.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de souvenirs, mais celui qui vous a le plus marqué?
Le grand souvenir, c'est que j'ai un petit côté qui n'est pas très connu. J'étais un musicien de fanfare. J'ai dirigé à un certain moment la fanfare et l'orchestre du collège Saint-Louis de Kananga. C'est un souvenir qui m'est resté très marqué parce que à l'époque, vous savez, dans la fin des années 70, début des années 80, le Congo était encore, à l'époque, la République du Zaïre était l'un des pays où tout allait bien sur le plan économique, sur le plan social. Je suis resté marqué par ce passage éclair, mais j'ai compris que le fait d'avoir été musicien de fanfare, parce que j'ai joué pratiquement tous les instruments de fanfare, ensuite à l'orchestre où j'ai joué de la guitare, j'étais chanteur, et c'est un passé qui me revient de temps en temps.
Et aujourd'hui, vous jouez toujours à tous ces instruments?
J'avais opté, lorsque j'ai terminé les études secondaires, j'ai dû choisir l'université, et avec l'université, j'avais plus ce temps-là. Je sais que pendant un temps, les deux premières années d'université, parce que j'ai été à l'université de Yaoundé au Cameroun, c'est là où j'ai fait mes études universitaires, et j'ai joué pendant quelques temps, et puis il y a aussi le football. J'ai aussi été parmi les meilleurs joueurs du collège, et puis ça s'est arrêté. Pour les études post-universitaires, pas avoir le temps pour se consacrer, et quand je suis allé en Europe, j'ai plus pris mon temps pour la recherche scientifique qui a été conclue par l'obtention du doctorat d'État en droit économique en 1988, et aussitôt après, j'ai regagné le pays.
Pourquoi vous avez préféré aller faire vos études universitaires à l'étranger? C'était un choix personnel ou bien c'est les parents qui avaient décidé que vous puissiez aller à l'étranger?
C'était un fait du hasard. J'avais eu l'avantage d'avoir un aîné de la famille qui était directeur de l'enseignement catholique pour l'Afrique et Madagascar. Et compte tenu de mon petit passé de musicien, il avait estimé que s'il m'envoyait directement à l'étranger, je risquais de basculer vers des choses qui ne seraient pas intéressantes pour la famille. Et c'est ainsi qu'on opta pour d'abord un pas dans un pays africain, et après, lorsque les résultats vont être concluants, il pourrait alors me faire partir à l'étranger. C'est ainsi que je suis allé au Cameroun, et je me réjouis parce que j'ai été le premier universitaire congolais dans cette l'université de Yaoundé lorsque je suis parti de là en 1981.
C'était quoi vos impressions quand vous êtes arrivé à Yaoundé? C'était la première fois. Vous étiez étranger. Comment vous vous êtes senti?
Ah, je me suis senti d'abord, au départ, j'avais un peu de crainte. À partir à l'étranger comme ça, je n'avais que 19 ans. Et quand je suis arrivé, heureusement, j'ai été accueilli dans une famille qui m'a encadré. C'est dans ce contexte-là que j'ai pu finalement obtenir l'inscription à l'université et puis résider à la cité universitaire jusqu'à la fin de mes études. Donc, je n'ai pas été dépaysé. Le Cameroun, c'est un pays ami du Congo et j'ai gardé de très bons souvenirs de mon passage dans ce pays-là.
Et après le Cameroun, vous êtes rendu en France?
Après le Cameroun, je suis allé en France en 1981 et là, j'ai vécu comme tous les étudiants dans des cités universitaires et j'ai fait simultanément deux universités, donc j'étais à l'Université de Paris 12 et puis à l'Université de Paris 10. Donc j'ai combiné deux diplômes universitaires en l'espace de deux ans et après je me suis inscrit en thèse de doctorat. J'ai préparé cette thèse pendant trois ans et demi.
Vous avez un diplôme en droit économique et un autre en sciences politiques?
Un autre en sciences politiques, oui.
Ça devrait être dur pour vous, hein. C'est pas facile quand même.
Bon, c'est pas facile, hein, mais c'est une question de volonté, hein. Donc chacun a ses objectifs et moi j'avais cet objectif-là d'avoir deux voies et je pense que aujourd'hui ça me profite dans tout ce que je fais.
Professeur Grégoire Bakande, est-il marié?
Ah oui, bien sûr, je suis marié depuis plus de 20 ans. Père de deux enfants, c'est un peu surprenant pour les Congolais qui sont...
Très surprenant.
Bon, écoutez, lorsque on fait de la recherche scientifique, on doit parfois éviter d'être une usine de fabrication d'espèces humaines.
On dit que c'est une richesse, les enfants, professeur.
Bon, ça c'est la conception ancienne. Vous savez, moi je me réjouis aujourd'hui d'avoir deux enfants que d'en avoir plusieurs parce que j'ai l'expérience de ceux qui en ont plusieurs, qui connaissent des difficultés. Il faut avoir des enfants et être capable de les mettre dans des conditions de vie les meilleures et pour leur épanouissement personnel. Moi, je crois que c'est cette conception-là que moi j'ai.
Et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, professeur?
Ce que je n'aime pas, c'est... Je n'aime pas le mensonge. J'ai ce défaut-là de vouloir toujours faire un effort pour éviter de frustrer les gens, mais de dire beaucoup plus la vérité. Parfois, ça choque ceux qui sont en face de moi, mais je le dis avec sourire, et donc ça devrait m'éviter de retour de la médaille de la part de ceux qui traitent avec moi, qui sont en relation avec moi. Mais les gens me connaissent sur ce point-là. Je suis très gentil, je peux dire non à quelqu'un en souriant, je peux aussi dire oui, mais j'ai horreur des choses qui ne sont pas vraies.
Radio Classique, grand témoin.
Grégoire Bakande Jawampungu, professeur des universités de Kinshasa, Brazzaville, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ministre honoraire et vice-président de l'Institut euro-africain de droit économique, et celui que grand témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Professeur, parlons de votre carrière professionnelle. C'est par où que vous commencez à travailler pour la première fois après vos études universitaires?
Bon, ça dépend. Il y a la carrière académique et la carrière politique.
Vous êtes entré dans le monde, on ne parle pas de la carrière politique. Oui. Professionnel, c'est quand que vous entrez pour la première fois dans la profession?
Bon, je suis entré pour la première fois dans la profession en 1990. Quand j'ai regagné le pays, ayant étudié à l'extérieur, il fallait remplir un certain nombre de conditions pour être accepté par l'université et j'ai dû passer deux ans à attendre que mon dossier administratif soit conclu et finalement, c'est en 1991 que sur le plan administratif, j'ai été nommé professeur associé à l'université de Kinshasa. J'avais commencé par la faculté d'économie, ensuite la faculté des droits. Et donc en 1990. Parce que déjà en 91, j'ai dû assurer des enseignements en tant que visiteur à l'université de Kisangani, à la faculté de sciences politiques, administratives et sociales. Et donc c'est depuis cette période-là que, parallèlement, j'ai dû aussi assurer les fonctions de consultant pour le PNUD, et ensuite pour le HCR, et finalement pour la régie de distribution d'eau, la régie de...
Ouais. Professeur, en 96, vous êtes professeur full et en 2000, professeur ordinaire. C'est quoi la différence entre professeur full et professeur ordinaire?
Bon, le professeur full, c'est celui qui, après 4 ans, suivant les conditions qui sont fixées par la loi, a dû faire des publications. Publications scientifiques, notamment des articles dans les revues scientifiques et aussi des ouvrages. Et c'est ce que j'ai fait, puisque après avoir écrit plusieurs articles dans les revues, j'ai dû présenter ces articles-là à la commission qui a apprécié et finalement j'ai été nommé professeur full. Ensuite, pour être nommé professeur ordinaire, il faut rédiger aussi plusieurs articles, à peu près 4 articles dans des revues scientifiques, ou publier un ouvrage. Et moi, j'avais déjà publié au-delà des 4 articles et puis 2 ouvrages. Donc c'est ça qui m'a conduit directement dans Denis d'avoir le grade de professeur ordinaire. Mais je ne suis pas limité à ça, donc je continue toujours à faire des publications, puisqu'il y a des ouvrages qui sont arrivés après. Moi, je suis un scientifique, la recherche scientifique, c'est ce qui m'intéresse, et c'est pourquoi je continue à publier. J'en publierai encore davantage pour le reste du temps.
Et comment vous vous êtes retrouvé dans la politique, professeur Grégoire Bacan, déjà?
Bon, je me suis retrouvé dans la politique par hasard, parce que lorsque j'ai regagné le pays, ma thèse de doctorat avait été appréciée en France, et j'avais obtenu le prix du ministère de la Coopération. Et le ministre de la Coopération, à l'époque, français, avait estimé que je pouvais être utile dans mon pays. C'est ainsi qu'il m'avait recommandé, et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai été accueilli directement comme consultant pour le ministère de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Et à l'époque, il y a l'ancien commissaire d'État Kibangula qui m'avait accueilli, et j'ai fait le travail de consultant pour le ministre jusqu'au moment où il a été nommé commissaire d'État à l'époque aux travaux publics à l'aménagement du CFA, et il m'a pris dans son cabinet comme conseiller. Jusqu'à la fin des années 90, lorsqu'il y a eu l'ouverture démocratique, et le ministre est parti, bon, je suis resté finalement au service du pays, en étant consultant pour la radio-télévision nationale congolaise, et j'ai commencé à animer plusieurs émissions, jusqu'à la fin des années 97, et en 98, à la suite des changements politiques sont intervenus, toujours dans des émissions de télévision qu'on organisait à l'époque avec M. Chilomba, Chamulamba, et Asoma, puisqu'il n'est plus avec nous, et Kassongo Mema aussi, et finalement c'est dans ce contexte-là que j'ai été approché par l'ancien président de la République, Moïse Kabila, et qui m'avait fait son conseiller privé pendant plus d'une année. Au milieu des années, de l'année 99, vers la fin 99, il me nomma à l'époque président du conseil d'administration de la Banque Centrale.
De la Banque Centrale.
Et c'est par là que tout est parti.
Vous êtes entré dans la politique par hasard, et une fois dedans, vous avez aimé?
Bon, écoutez, moi, je suis plus un technicien de la politique qu'un politicien. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au départ que le langage que moi j'utilise en politique, c'est un langage de vérité qui peut parfois blesser, parce que j'ai horreur de faire du sophisme, par exemple, me limiter simplement à ce qui est essentiel et utile pour le pays, de manière à ce que les populations soient suffisamment informées de la politique de la nation, et c'est ça qui me pousse à ne pas me considérer comme étant un acteur politique actif au sens politicien, c'est-à-dire au sens où il y a un peu de déviationnisme entre le vrai et le faux.
Après la Banque Centrale, vous avez été nommé ministre?
J'ai été nommé ministre après, mais lorsque je suis arrivé à la Banque Centrale, j'avais une mission à réaliser. La mission, c'était de contribuer à la restructuration de la Banque Centrale. Et c'est cette mission-là que j'ai menée dans la vérité. Il fallait restructurer la banque.
Professeur, en quoi consistait exactement cette restructuration?
Tout ça veut dire la redimensionner en fonction des besoins réels du pays et pour faire jouer à cette banque les missions classiques d'une banque centrale. Et c'est ce qui a conduit à l'organisation à l'époque des concours pour l'occupation des postes de direction, et la restructuration avait consisté principalement à assurer la maîtrise des dépenses au niveau de la banque par la rationalisation de sa gestion. C'est ainsi que les promotions ont fait, c'était de faire partir le nombre de directions au niveau central de 24 à 10. Parce qu'on avait estimé que les meilleures banques du monde n'ont pas au niveau central plus d'une dizaine de directions, et ce sont ces directions qui sont là. Mais le fait de ramener 24 à 10...
Et donc il fallait assainir au sein de la banque centrale.
Ça fait un assainissement qui fait grincer les dents. Ah. C'est pourquoi je suis parti de la banque aussi avec beaucoup d'ennemis au niveau de la banque, qui estimaient que ce n'était pas normal qu'on puisse procéder à cet assainissement-là. Mais aujourd'hui, avec le résultat, à l'époque, les gens ne comprenaient pas, mais
aujourd'hui,
ce que j'avais fait comme travail au niveau de la banque, ça a été apprécié après par les institutions financières internationales. Et après avoir fait ce travail-là, j'ai finalement quitté. J'ai été nommé au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie.
Je vous posais la question de savoir quel diagnostic vous faites de l'économie congolaise aujourd'hui.
Bon, tout le monde sait que l'économie congolaise est une économie extravertie, parce qu'à l'époque, c'était une économie orientée vers l'extérieur. Nous n'avons pas pu inverser les tendances depuis les indépendances. C'est pourquoi l'accent été mis à l'époque où nous étions là sur l'amélioration du climat des affaires et puis le fait d'inciter les Congolais à s'approprier leur propre développement au lieu de compter sur l'extérieur. Alors donc, c'était une manière de pousser les gens à un travail productif parce que le pays se nourrit du travail productif et de l'efficacité de la production de l'ensemble de la société. Et l'ensemble de la société implique tous ceux qui ont choisi le Congo comme étant leur pays. Et donc sans exclure les étrangers. Malheureusement, c'est qu'on j'ai pu constater quand j'étais au ministère de l'économie, je me suis rendu compte que finalement, il y avait plus d'opérateurs, d'acteurs économiques étrangers que des nationaux qui développaient les activités économiques. Et je pense que l'erreur provenait du fait que le président Mobutu, par exemple, avait procédé à la réalisation, qui n'était pas une mauvaise mesure en tant que telle, c'était de créer une classe moyenne des Aïrois à l'époque, des Congolais, qui devaient s'occuper de l'outil de production pour que l'État compte d'abord sur les acteurs nationaux au lieu de compter sur les partenaires ou les investisseurs étrangers qui ont pour objectif de faire l'accumulation du capital avec le profit, mais aussi rapatrier ce profit, donc c'est profité par le Congo. Et finalement, c'est le pays qui s'est même endetté parce que l'investissement de la dette du Congo part aussi de toutes ces unités de production appartenant aux étrangers qui ont été nationalisées, et finalement, le pays en pâtit aujourd'hui. Donc, c'est le travail productif. Malheureusement, le Congolais, aujourd'hui, s'occupe plus au travail qui n'est pas productif, qui consiste simplement à consommer sans nécessairement investir davantage.
Et qu'est-ce qu'il faut pour relancer l'économie congolaise?
Mais pour relancer l'économie, je crois qu'il faut compter sur les ressources humaines. Et je pense que le Congo a la force de sa jeunesse et développer des acteurs nationaux et mettre les moyens à leur disposition, c'est-à-dire trouver les financements nécessaires au niveau local, d'où l'importance d'avoir des banques pour jouer ce rôle-là, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à avoir des bourses dans notre pays pour rechercher le financement des activités économiques et des investissements. Donc, l'accent va être mis sur l'organisation de l'économie au niveau national de manière à assurer les conditions du développement du pays par l'intéressement de ceux qui ont des moyens et la sécurisation de ces moyens par l'État qui a pour rôle d'encadrer tout cela.
Professeur, ces mêmes personnes qui ont des moyens se plaignent aussi du fait que l'État ne les accompagne pas. Ils peuvent avoir ce souci-là d'investir dans le pays, mais à cause de toutes les tracasseries qu'il y a, les taxes par-ci par-là, ça les encourage pas à investir dans le pays.
Mais il y a quand même un effort qui est fait pour l'instant pour diminuer ces taxes. Pourquoi on parle de l'environnement des affaires ou du climat des affaires, on fait un effort pour que ceux qui ont des moyens les utilisent à des fins de production parce que, en fait, lorsqu'on est en commerçant, on est en capitaliste. Et le capitaliste, c'est maximiser le profit. Alors, maximiser le profit, devenir de plus en plus grand, mais devenir de plus en plus grand en respectant les règles du jeu. Or, très souvent, que font les opérateurs? Les opérateurs s'organisent avec les agents, effectivement, des services chargés de la perception pour les corrompre et finalement, l'État perd de l'argent. Donc, l'organisation, c'est aussi principalement la fiscalisation de la plupart de ces activités. En les fiscalisant, on permet à l'État d'avoir les mains de la politique, et plus il y a une assiette plus large d'investissement qui se réalise dans le cadre formel, mieux ça vaut pour l'État qui peut alors à ce moment-là diminuer progressivement les taxes pour pousser les gens à venir vers l'État qui est en fait le garant de tous les investissements que l'on a réalisés dans le pays. Alors vous savez, nous sommes restés longtemps en vase clos à la suite de la rupture des relations diplomatiques avec les présidents de l'Union à partir des années 90 et puis nous sommes entrés dans notre folie collective après le processus de démocratisation, on a pensé qu'on pouvait développer un pays comme ça sans faire beaucoup d'efforts et c'est ça qui nous a mis dans cette ambiance de penser que c'est que nous faisions était bon alors qu'en réalité nous étions à côté. Alors maintenant qu'on est en train de suivre le schéma avec un arsenal de textes et tout ça, ça peut nous permettre d'avancer. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir des textes. Le plus important, c'est de savoir
avoir les textes et les appliquer.
Les appliquer et surtout assurer ce qu'on appelle l'impunité zéro.
Alors, professeur Grégoire Bakandeja, vous avez été aussi député national dans ce pays. C'était pendant la période de transition. Et vous avez été même président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Vous avez publié un rapport sur la mauvaise gestion des deniers publics.
le rapport que nous avons réalisé, c'est le rapport de la commission qui était chargée d'examiner la gestion des entreprises publiques. C'est un rapport qui a fait l'objet d'une discussion au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale d'alors, et des sanctions avaient été proposées, et ce sont ces sanctions qu'on a appliquées pour tous ceux qui étaient impliqués dans les actes de prédation de mes gestions. C'est ce qui a été fait.
Ce rapport a-t-il été établi avec objectivité? Parce que certaines personnes ont critiqué quand même ce rapport.
Bon, écoutez, la critique est facile, mais l'art est difficile. Mais d'abord, il faut voir d'où vient ce rapport. Ce rapport vient après des audits. Des audits qui avaient été réalisés par les institutions de contrôle de la République. Ça veut dire la Cour des comptes, le Conseil supérieur du portefeuille, l'inspection générale des finances. Donc, il y a eu des experts de ces institutions qui ont examiné les états bilantaires des entreprises concernées, et un rapport avait été établi. C'est ce rapport-là qui a été envoyé à l'Assemblée nationale. Alors, le contenu de ce rapport a fait l'objet de discussions au niveau de ce qu'on appelle la conférence des présidents. Et on avait estimé qu'il y avait des choses graves qui contribuaient à l'assainissement de finances de l'État. Alors, lorsque le rapport est arrivé, nous avons procédé à la même démarche. Nous avons fait venir les responsables des entreprises concernées. Il y en avait une vingtaine. Et nous avons examiné avec eux tout ce qu'il y avait comme reproche, et puis certains actes qui étaient posés par ces gestionnaires ont été justifiés par le quitus des tutelles. C'est ainsi qu'on avait aussi fait venir les membres du gouvernement qui étaient concernés, et pour faire venir les membres du gouvernement, il fallait obtenir l'accord du président de la République qui était le chef du gouvernement, et aussi des vice-présidents d'alors.
Mm-hmm.
Et c'est ainsi que ce rapport a pu être élaboré en toute transparence, en respectant les règles du jeu, et il a été publié.
En 2006, vous avez postulé à la députation nationale, mais malheureusement pour vous, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché parce que les résultats ont donné que ça n'a pas marché. Donc on sait qu'il y avait beaucoup de manipulations. Et moi, comme je vous ai dit, je n'aime pas être poussé à des manipulations qui me conduisent à mon discrédit. Donc j'avais laissé faire, je n'avais pas fait d'intervention parce que d'abord, moi, je suis un universitaire, un technicien. Je sers mon pays quand le pays a besoin de moi, mais les gens ont mal compris les choses. Il y avait une coalition d'intérêts contre moi et moi, j'estimais que je pouvais me mettre en recul et vivre autrement, tout en restant au service de la nation. Et d'ailleurs, tous ceux qui gèrent aujourd'hui n'ont pas été nécessairement élus.
C'est-à-dire quoi, professeur?
Ah non, il y a des gens qui n'ont pas été élus, qui sont aux affaires. Mais pour des raisons autres que je ne connais pas, certains ont estimé qu'on pouvait me mettre à l'écart. Et puis, bon, moi, me mettre à l'écart, c'est me pousser à être au service du pays en faisant de la recherche. Et c'est ce que j'ai fait pendant les 4 ans. Et puis, j'ai poursuivi mes enseignements à l'extérieur du pays et les consultations que je fais pour des grandes organisations, notamment au niveau de l'Union européenne. Parfois de la Banque mondiale. Et c'est ce que je fais, et du plus comme travail technique.
Vos ambitions pour 2011?
Mes ambitions pour 2011, c'est toujours de servir le pays.
Ouais, vous allez
servir le pays.
Vous allez vous représenter à la députation?
Oui, certainement, je me représenterai. Je me représenterai.
Et vous pensez que ça va marcher? Il n'y aura pas une coalition encore pour mettre les bâtons dans les roues?
Mais écoutez, on est entre les hommes. Je crois que ceux qui ont fait des erreurs demain peuvent se rattraper. L'espérance pour dans la plupart des pays, que le renouvellement des mandats au niveau des chambres législatives, c'est toujours à hauteur de 10%. Donc, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, il n'est pas évident qu'ils soient là demain. Parce que pour accéder aux fonctions actuelles, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment des mensonges. Et je crois que 4 ans après, les gens se rendent bien compte que ce qui avait été promis n'a pas été réalisé sur beaucoup de points, parce que c'est pas le travail de députés que pour que la circonscription soit entendue. Il ne suffit pas seulement d'avoir des députés, mais il faut avoir des gens capables de faire entendre leur voix et de pousser à ce que les conditions s'améliorent pour les populations qui ont voté.
Alors, professeur, un petit commentaire sur l'ouvrage que vient de publier le sénateur Mutinga, un titre quand même très fort, hein, La République des inconscients.
Je connais bien M. Mutinga, qui est en contact avec moi depuis plusieurs années. Nous avons entre nous une amitié, mais je connais ses convictions. S'il y a un problème d'inconscient, c'est que, vous savez, notre pays cache encore beaucoup de ressources que le monde ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas l'importance de notre pays. C'est l'extérieur qui connaît l'importance de notre pays. Parce qu'il y a, avec la globalisation, bon, on connaît tout ce qui renferme notre sol et notre sous-sol. Et il a été constaté malheureusement depuis 1960 que les richesses de ce pays ne profitent pas aux Congolais, ça profite à des étrangers. Et pour la réalisation des objectifs de ces étrangers, on se sert toujours des Congolais. Ces fils égarés dans leur copinage avec les milieux internationaux ramènent le pays à une histoire d'une proie que se partage n'importe quel aventurier, et c'est pourquoi nous sommes victimes de beaucoup de guerres qui ne profitent pas au pays, parce que le pays ne fait que s'enfoncer alors que le pays devait être, de par toutes ses ressources et le niveau de développement qu'il avait atteint dans les années 60, être en mesure de rivaliser avec les grandes puissances aujourd'hui dans le monde. Mais on constate qu'on perd beaucoup de temps avec les questions politiciennes, et c'est pourquoi on a parlé dans le poulet de l'inconscience. Et mais moi, je pense qu'au lieu de parler de l'inconscience, il vaut beaucoup mieux parler de la République des irresponsables. Ce n'est pas de l'inconscience, mais bon, c'est beaucoup plus l'irresponsabilité qu'il faut fustiger.
Et donc, ça renvoie à la réalité un peu du pays.
Mais ça renvoie à la réalité, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent en réalité. Et des gens qui se limitent simplement à des choses précaires. Vous savez, lorsqu'on parle du développement, et on ajoute le terme durable, développement durable, c'est s'efforcer de satisfaire aux besoins présents sans compromettre les capacités de générer d'autres besoins dans le futur. Autrement dit, on ne travaille pas pour soi. On travaille pour la progéniture, on travaille pour les enfants concrets. Et vous avez m'avez posé la question, vous étiez un peu surpris, d'accord, que je n'avais que deux enfants. Mais si j'en avais 7 ou 8 dans les conditions actuelles du pays, comment aurais-je pu assurer l'avenir de ces enfants-là? Vous voyez, nous avons beaucoup d'enfants qui sont abandonnés aussi, le phénomène des chégués. Mais cela est dû au fait que les gens n'ont pas su, avant d'avoir ces enfants, penser à leur avenir. Et c'est ainsi qu'on parle dans tous les pays du développement durable. Aujourd'hui, quand vous réalisez un investissement, ce n'est pas pour que ça vous profite directement, l'investissement, c'est pour que ça profite aux générations futures. Alors on a l'impression que les Congolais n'ont pas ce souci-là. Et c'est ça qui justifie que des mots aussi forts de la République des inconscients peuvent se justifier.
Et vous préférez qu'on parle de la République des irresponsables? Ces irresponsables, c'est tous les Congolais qui sont irresponsables ou une catégorie?
Bon, écoutez, d'abord je dois vous dire que chaque peuple se dote des dirigeants qu'il mérite. Si un peuple est constitué des inconscients, il votera pour les dirigeants inconscients. Mais si un peuple est un peuple mieux, il votera pour des gens qui vont avoir des politiques permettant de garantir l'avenir et non pas de faire du surplace.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Le professeur Grégoire Bakandeja, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre entretien. Comment vous passez vos moments de détente, professeur? Quand vous n'êtes pas dans vos ouvrages, dans vos syllabus, dans les cotes des étudiants, comment vous passez vos moments de détente?
Ben, je passe souvent les moments de détente en écoutant la musique classique. J'aime beaucoup la musique classique, ça me rappelle un peu mon passé d'ancien musicien, vous jouez les valses et autres, et parfois et très souvent, comme j'aime beaucoup le football, je regarde les matchs de football.
Professeur, une dernière question avant de nous séparer. La RDC a commémoré son 50e anniversaire de son accession à son indépendance. Quel bilan vous dressez du parcours de la RDC depuis 1960 à ce jour?
Bon, écoutez, il ne m'appartient pas de faire un bilan. Le bilan a été fait. On sait qu'il y a eu beaucoup de ratés. Il y a eu beaucoup de ratés parce que nous, notamment sur le plan économique, nous avons appris la politique ou la gestion économique, par exemple, en gérant les entreprises. Vous savez, dans notre pays, on crée des entreprises. Mais au Congo, il y a eu des gens qui sont arrivés à la gestion économique en commençant par les entreprises publiques. Et la conséquence, c'est qu'on a canalisé ces entreprises et aujourd'hui, on se retrouve dans des difficultés. Mais il y a quand même quelques avancées sur le plan politique. Il y a eu des avancées dans le cadre de l'apprentissage de la démocratie avec les élections qu'il y a eu, plus ou moins correctes. Et je pense que on a encore le temps. Hein. Ceux qui sont arrivés à la démocratie, on continue encore à faire un effort là-dessus. Et je crois qu'on peut penser que si globalement c'est négatif, il y a eu quelques avancées sur le plan économique et politique.
Professeur Grégoire Bakandeja, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais pour vous professeur Grégoire Bakandeja Wapungu. Il est professeur des universités de Kinshasa, Brazzaville, Paris 1, Panthéon, Sorbonne, ministre honoraire et vice-président de l'Institut Euro-Africain de droit économique. Merci à Willem Lungamba qui était à la technique. Kélin Kouté vous a présenté cette émission. Retrouvez-la sur notre site internet www.radioofaki.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.